France Info.
À la une de ce 3 décembre, pas de compromis et des discussions tenues secrètes. On va faire le point tout de même sur ces négociations qui ont eu lieu à Moscou entre Américains et Russes sur l'Ukraine. À la une également ce matin, le bloc central qui se divise. Horizon, le parti d'Édouard Philippe, menace de ne pas voter le budget de la Sécu. L'État condamné pour ne pas avoir suffisamment mis de moyens pour l'éducation sexuelle. Nous serons dans le Doubs, vous entendrez l'émotion à l'annonce de l'euthanasie d'un troupeau de vaches touché par la dermatose. Euthanasie malgré de grosses manifestations et puis c'est un rendez-vous incontournable. Les Transmusicales de Rennes commencent ce soir. La délégation américaine face au président Poutine et ses conseillers sous les ordres du Kremlin. C'est l'image de la soirée diplomatique. Négociation sur le plan de paix proposé par Washington pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Qu'en est-il ressorti pour l'instant? Une seule prise de parole au micro, celle de Yuri Outchakov, conseiller du président russe.
Nous avons pu nous mettre d'accord sur certains points et le président l'a confirmé à ses interlocuteurs. D'autres points ont suscité nos critiques et le président n'a pas caché notre position critique, voire négative, sur un certain nombre de propositions. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de compromis, mais certaines solutions américaines semblent plus ou moins acceptables et nous pouvons en discuter. Nous nous sommes mis d'accord avec nos collègues américains pour ne pas divulguer l'essentiel des négociations qui ont eu lieu.
Et justement, la diplomatie américaine reste très discrète. Il y a eu quelques progrès, annonce simplement le département d'État il y a quelques minutes. La situation en Ukraine, il en sera question aujourd'hui à Pékin entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, tout comme les relations commerciales entre la Chine et l'Europe. Et début d'un voyage d'État de 3 jours pour le président de la République qui emmène avec lui une trentaine de chefs d'entreprise. C'est la 4e fois qu'il se rend en Chine depuis le début de son premier mandat. Le procès en appel de Christophe Glaize s'ouvre aujourd'hui en Algérie. Le journaliste français qui travaille pour SoFoot et Society a été condamné à 7 ans de prison ferme fin juin pour apologie du terrorisme. Ses soutiens espèrent une libération après la grâce prononcée pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Et si ce n'était pas les socialistes qui faisaient capoter le budget, mais le centre droit, le groupe Horizon fait savoir qu'il n'est pas prêt à voter le budget de la Sécu, le projet pas à ce stade une annonce, alors que le texte est de retour depuis hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La perspective de réunir une majorité sur ce budget crucial semble donc s'éloigner, Audrey Tison.
Trop de déficits, un recul de la réforme des retraites, une hausse de la taxation du patrimoine. Si tout cela reste dans le texte, le groupe Horizon ne le votera pas. Ligne édictée par le chef Édouard Philippe, reprise par le député Paul Christophe.
C'est que nous ne voyons pas comment voter favorablement le document qui est mis sur la table au moment où on va entamer la discussion budgétaire, et que ça sortirait soit un vote contre, soit une abstention en fonction de l'évolution.
Un groupe du bloc central qui voterait contre le texte, cela entraînerait un rejet du budget et l'abandon de toutes les concessions faites par le gouvernement en direction du PS. Ça n'est pas sérieux, juge Olivier Faure, agacement partagé par l'écologiste Benjamin Lucas.
Ces gens se sont roulés par terre pour garder le pouvoir, pour empêcher que la gauche gouverne. Et aujourd'hui, ils se comportent comme des enfants gâtés qui veulent surtout ne rien remettre en cause de leur bilan. Voilà.
Incompréhension aussi dans le bloc central. Au Modem, Philippe Vigier suspecte Édouard Philippe de calcul politicien.
Vous avez bien compris qu'il y a un parfum de présidentiel qui est en train de traîner au-dessus de tout ça. La présidentielle, c'est en 2027. Là, il faut gérer la France.
Ambiance au sein de la coalition centrale. Il reste 10 jours au Parlement pour voter le budget de la Sécu.
Merci Audrey Tison du service politique de France Info. 1 euro symbolique à payer, mais une condamnation lourde de sens. Condamnation de l'État par la justice administrative hier, reconnu coupable d'avoir tardé à organiser les séances d'information et d'éducation à la sexualité à l'école. Le tribunal administratif de Paris avait été saisi par le planning familial, par le SIDAction et par SOS Homophobie il y a 2 ans. Alors Noémie Bonin, qu'est-ce qui est reproché exactement à l'État dans ce dossier ?
Ce que la justice reconnaît aujourd'hui, c'est que la puissance publique n'a pas respecté sa propre loi de 2001. Elle prévoit que chaque élève de l'école jusqu'au lycée bénéficie de 3 séances chaque année d'éducation à la sexualité de manière progressive. Le problème, c'est que ces ateliers n'étaient jusqu'à présent que très peu, trop peu organisés. Le tribunal constate donc que cette mission n'avait pas été assurée de façon systématique. À ses yeux, cette carence de l'État est une faute. En revanche, la justice rejette la demande des associations de contraindre le ministère ministère de l'Éducation à mettre en œuvre ce dispositif aujourd'hui, puisque des programmes précis ont été publiés en février dernier. C'est d'ailleurs ce que met en avant aujourd'hui le ministre. Il promet un suivi pour mesurer le nombre de séances effectuées. Les associations sont plus sceptiques. Elles estiment que la loi n'est toujours pas appliquée cette année et que ces séances peinent à se mettre en place.
Noémie Bonin, près de 500 manifestants, des agriculteurs, des syndicalistes, des proches de la famille des éleveurs rassemblés devant une ferme du Doubs pour dénoncer l'abattage de 83 vaches. Abattage validé par la justice à Pouillé français. Le troupeau a été euthanasié après la confirmation d'un cas de dermatose nodulaire bovine. 200 gendarmes avaient été déployés, les routes coupées pour faire face à la colère et surtout à l'émotion de la famille et des manifestants dévastés. Lucille Pascanet.
À l'annonce de la décision du tribunal administratif, la famille L'Homme s'effondre et quitte l'exploitation. Un seul fils, Nathan, reste en arrière, ému. Tout le travail de sa famille depuis des générations va disparaître.
C'est mon papy qui a commencé à construire, puis après mon papa qui a repris la ferme. Moi je veux pas, c'est trop le bazar, c'est injuste l'agriculture, je trouve, surtout en ce moment. Ça me fait mal au cœur pour mon papa, pour ma famille, mon papy, puis je remercie tout le monde d'être venu quand même. Même si on n'a plus de vaches, on va sauver la ferme.
Derrière lui, les gendarmes ferment rapidement les portes de l'immense hangar. Les 83 vaches y recevront une injection létale.
Bah, non seulement les portes sont fermées, mais il y a une quinzaine de véhicules blindés de gendarmerie mobile qui sont disposés de manière à encercler le bâtiment.
Laurence Lyonnais-Meslob est porte-parole de la Confédération Paysanne.
Puis après, il y a des personnes en combinaison, comme si on avait affaire à une alerte épidémiologique, chimique, de haute gravité. Les éleveurs ont joué le jeu, ils ont vacciné, ils ont fait tout ce qu'on leur avait dit. Et malgré ça, ils doivent encore subir cette épreuve. Le rapport qu'on a avec nos animaux d'élevage, c'est un rapport familial.
La préfecture, elle, évoque la nécessité de ce dépeuplement pour endiguer l'épidémie et l'impossibilité de confiner réellement les bêtes. La maladie se transmettant par des piqûres de mouches.
Reportage ici, Besançon, de Lucille Pascanet pour France Info. Qui va affronter le 15 de France en phase de poule de la prochaine Coupe du Monde de rugby, celle qui aura lieu en 2027? Ce n'est pas tout de suite, mais le tirage au sort, lui, a bien lieu aujourd'hui. Ce matin même, à 10h, ce sera en Australie, le pays organisateur. Les Français qui seront tête de série, vu leur niveau. Donc, ils ne pourront pas affronter en début de compétition les plus forts, comme les Sud-Africains, double champion du monde en titre, les All Blacks de Nouvelle-Zélande, toujours des adversaires redoutables, ou encore nos ennemis héréditaires, l'Angleterre. Et puis, c'est l'un des festivals les plus emblématiques du pays. C'est le début ce soir à Rennes des 47e rencontres transmusicales. Et comme chaque année, pas de grosses têtes d'affiche, Yann Bertrand, non. Seulement des coups de cœur et des genres très variés.
Du post-punk allemand, de l'électro-italienne, des polyphonies occitanes ou de la cumbia mexicaine. Les transmusicales sont tous là à la fois. Le programmateur depuis 46 ans, Jean-Louis Brossard.
Tout ça, c'est un mélange de musique, de sons, de personnalités, de gens qui viennent d'autres pays, mais aussi qui viennent de Rennes et de Bretagne, dans des styles qui peuvent être du rap, du rock, mais du néo-trad, de l'électro, des Philippines. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la programmation.
Et dans cette grande sono mondiale, un nom qui a explosé ces derniers mois, le Nigérian Obong Jaya.
Je touche à beaucoup de genres, mais ma musique, c'est ce que je fais de tout ça. J'aime toutes sortes de choses, du classique au punk rock. Et puis je suis Nigérian, donc l'afrobeat coule dans mes veines. C'est ce qui fait battre mon cœur.
Dans un contexte économique difficile, surtout pour les festivals et le spectacle vivant, les transmusicales restent chaque année cette oasis de découverte incomparable, un tour du monde en concert.
Merci Yann Bertrand du service culture de France Info qui suivra pour nous ces transmusicales à Rennes. Christine Peña, on garde un temps rennais, un temps Mossad.
Oui, un temps Mossad.
Je dis ça. Alors, pour Maureen Suignard.
Eh bien, n'empêche que à Rennes et sur l'ouest, hein, vous aurez des éclaircies.
Comme quoi?
Eh ben oui, comme quoi. Alors que dans le sud-est, il va pleuvoir copieusement, il va neiger dès les premières hauteurs. Et au niveau des températures, c'est pareil, hein, pas d'évolution, pas de gelée ce matin, les valeurs sont positives, un peu comme hier. De 5 à 8 degrés, 8 à Paris, 5 à Toulouse, à Dax, à Lille, à Nancy, 8 à Tours, à Carcassonne, Bayonne et des pointes à 12 en Méditerranée du côté de Marseille et de Toulon.
Merci d'avoir précisé qu'il fait toujours beau à Toulon.
Non, pas beau.
Ah mince, j'avais cru.
Doux,
j'avais cru,
mais pas beau.
Doux, mais pas beau. Bon, bah merci Christine Peña. Il est 5h10.